Annie, troisième partie, chapitre 5. Quand Sixte arriva chez le baron, il était presque en retard, et tous les invités se trouvaient réunis dans le salon de la villa, dont les fenêtres ouvraient sur la mer. Il y avait là quelques propriétaires de la contrée, des Russes, des Espagnols, et les camarades que Darjusanx lui avait annoncés. « Je croyais que tu ne viendrais pas, » dit l'un d'eux. « Et pourquoi ?»« Lune de miel. »« Miel n'est pas glu. » Le dîner était combiné pour laisser des souvenirs aux convives et les rendre fidèles, composés de mets envoyés des pays d'origine, poularde de la Bresse, écrevisse de Styrie, ortolan des Landes tiré dans les terres de Darjusanx, pâté de foie gras de Nancy, en vin les premiers crus authentiques. Ce qui ne fut pas de premier cru, ce fut la conversation, qui se maintint dans la banalité, ces étrangers que le hasard réunissait, n'ayant entre eux ni idées communes, ni habitudes, ni relations. On parla du climat de Biarritz, puis de la température, de la plage, des villas et de leurs habitants. On passa au casino. Très agréable, ces deux casinos. Quand on est nettoyé dans l'un, on peut essayer de se refaire dans l'autre. Mais Darjusanx ne fut pas de cet avis. Pour lui, le jeu n'était un plaisir qu'entre amis, là où l'on trouvait la tranquillité et où l'on n'était pas exposé à s'asseoir à côté de gens qu'on ne saluait pas dans la rue. Si, d'autre part, il fallait surveiller les croupiers pour voir s'ils ne bourraient pas la cagnotte ou n'étouffaient pas les plaques en même temps qu'il fallait se défier des Grecs, le jeu devenait un très vilain travail que pouvaient seuls accepter ceux qui lui demandaient leur gagne-pain. « Aussi, messieurs, dit-il en concluant, si jamais l'envie vous prend dans l'après-midi ou dans la soirée, de tailler un bac, considérez cette maison comme vous appartenant, un cercle dont nous faisons tous partie et où vous pourrez amener vos amis. » Le menu, si abondant qu'il fut, eut une fin cependant. On passa dans le salon, où l'on fuma des cigares exquis en regardant la mer. Mais le miroitement de la lune sur les vagues, pas plus que les éclats du feu tournant de Saint-Martin renaissant et mourant dans les profondeurs bleues de la nuit, n'étaient des spectacles faits pour retenir longtemps l'attention de cette jeunesse peu contemplative. Les cigares n'étaient pas à moitié brûlés que les yeux s'interrogèrent d'un air vague et inquiet. « Que va-t-on faire ?» À cette question, l'un des convives répondit en rappelant la proposition de Darjusanx. « Si on taillait un bac ?» 10 voix appuyèrent. « Je ne vous demande que le temps de faire desservir la table, » dit Darjusanx. « Nous serons mieux dans la salle à manger qu'ici. J'enverrai aussi chercher des cartes, car je n'en ai pas. » Un quart d'heure après, on était assis autour de la table sur laquelle on avait dîné, et le banquier disait « Messieurs, faites vos jeux !» Sixte, de la vigne et un de leurs camarades étaient restés dans le salon où ils causaient. Darjusanx vint les rejoindre. « Vous ne jouez pas ?»« Tout à l'heure, » répondit de la vigne. « Et toi, Sixte ?»«
Ma foi, non. »«
Oh, je t'ai connu joueur, cependant. »«
Au collège. »«
Et à Saint-Cyr aussi, » dit de la vigne.
« J'ai joué, » continua Sixte, « quand le gain ou la perte de 100 francs me crispait les nerfs, arrêtait mon cœur et m'inondait de sueur. Mais maintenant, qu'est-ce que cela peut me faire de gagner ou de perdre ?»«
Et l'émotion du jeu ?» dit Darjusanx.
Je ne désire pas me la donner, et même, je souhaite ne pas me la donner.
Alors tu n'es pas sûr de toi ?
Qui est sûr de soi ?
Si tu n'as pas apporté d'argent, continua Darjusanx, ma bourse est à ta disposition,
et à la vôtre aussi, monsieur de la Vigne.
J'accepte 25 louis, dit de la Vigne, d'un ton qui montrait que son porte-monnaie n'avait pas été garni. Aussitôt qu'il fut en possession des 25 louis, de la vigne passa au salon.
« Voilà qui prouve, »
dit Darjusanx avec une ironie légèrement méprisante, «
que madame de la vigne tient de court son mari. » Sixte ne répliqua rien, mais 2 minutes après, il entrait à son tour dans le salon et mettait 10 louis sur la table. Il gagna, laissa sa mise et son gain sur le tapis, gagna une seconde fois, puis une troisième. Alors, il ramassa ses 1600 francs et retourna dans le salon, tout surpris de ressentir en lui une émotion que le gain d'une somme en réalité minime n'expliquait pas. Quelle étrange chose! Pendant ces 3 coups, il avait éprouvé ces frémissements, ces arrêts de respiration qui l'avaient si fort secoué autrefois quand il était gamin ou à l'école. Comme il avait eu raison de dire à Darjusanx qu'on n'était jamais sûr de soi, s'il s'en allait. Mais la fausse honte qui l'avait fait jeter ses 10 louis sur la table le retint. Que ne dirait-on pas? Il alluma un cigare. Mais devant la fenêtre où il le fumait, lui arrivaient les bruits de la salle à manger, se mêlant aux murmures rauques de la marée montante. De temps en temps, la voix du banquier ou des pontes, et aussi le tintement de l'or, le flic-flac des billets et des cartes, dominaient ces bruits vagues. « Messieurs, faites vos jeux !»« Carte 5, 9 !» Fût-ce ce sentiment de fausse honte, fût-ce la magie, la suggestion de ces bruits. Toujours est-il qu'au bout de 10 minutes, il revenait au salon et déposait 50 louis sur l'un des tableaux qui gagna. Jusque-là, il avait joué debout. Machinalement, il attira une chaise et s'assit. Il était dans l'engrenage. Alors, l'ivresse du jeu le prit, l'emporta et anéantit sa raison aussi complètement que sa volonté. Il n'était plus qu'un joueur, et, en dehors de son jeu, rien n'existait plus pour lui. De partie en partie, le jeu arriva vite à une allure enfiévrée, vertigineuse. À son tour, Sixte prit la banque, gagna, perdit, la reprit, et, à 1 heure du matin, il devait 40 000 francs à Darjusanx, 5 000 à Delavigne, 20 000 aux autres. En tout, 65 000 francs représentés par des cartes qui portaient écrit au crayon le chiffre de ses dettes envers chacun. Alors, Darjusanx l'attira dans son cabinet. « Si tu veux payer ce que tu dois, lui dit-il, je mets 25 000 francs à ta disposition. Il y a des étrangers qui ne te connaissent pas. Peut-être voudrais-tu t'acquitter envers eux tout de suite. » « Je le voudrais. Eh bien, accepte ce que je t'offre. Ne vaut-il pas mieux que je sois ton seul créancier ? Entre nous, cela ne tire pas à conséquence. Tu me rembourseras quand tu pourras. »